Bonjour et bienvenue sur France Culture pour cette toute dernière conférence du carême protestant intitulée « Du zapping à la rencontre » et proposée par le pasteur Laurent Schlumberger de l'Église protestante unie de France. Cette dernière conférence s'intitule « Le mobile de Dieu ».
Détour du chemin, les tours de la cathédrale sont enfin apparues. Elles se dressent au loin et grossissent insensiblement au rythme de la marche. Au milieu du petit groupe de marchands et d'artisans auquel il s'est joint pour se protéger des risques du voyage, le pèlerin médiéval ressent un mélange de joie et de crainte. Joie d'accomplir son vœu, de parvenir bientôt à ce but. Joie de trouver là l'occasion de s'approcher, non pas de Dieu, non, ce serait trop audacieux de le penser, mais de s'approcher au moins de ceux qui eux-mêmes en sont proches, le clergé, les moines. Joie d'accéder enfin à ce lieu, la cathédrale. Une sorte d'antichambre vers le ciel. Ce soir, ou demain, ce pèlerin entrera dans cet immense et long vaisseau. Il achèvera ainsi sa pérégrination dans la nef, puis dans le déambulatoire autour du cœur. Ses yeux seront sans cesse portés par les colonnes, les voûtes et les vitraux vers le haut, conduits à s'élever, jusqu'au moment où l'on élèvera le Saint-Sacrement, là-bas, au-dessus de l'autel. Et cette participation par les yeux à ce moment sacré sera l'un des moments les plus intenses de ce pèlerinage. Mais ce pèlerin qui s'approche de son but ressent aussi, mêlé à cette joie, de la crainte, qui se renforcera encore tout à l'heure, il le sait. La grandeur de la cathédrale l'exalte, mais elle l'écrase aussi. Osera-t-il seulement lever les yeux? Sa vie pécheresse, sa petitesse, son indignité, dont il a une si vive conscience, ne vont-elles pas l'accabler? N'est-il pas en train de trop s'approcher de l'impensable majesté de Dieu? Peut-être sa crainte se concentrera-t-elle sur un moment et un lieu précis, l'entrée dans le bâtiment lui-même. Car pour passer du parvis au narthex, il faut franchir le porche. Et là, au-dessus du porche, il y a ce bas-relief qui représente le Christ en gloire, qui observe et qui trie, le Christ en majesté, qui préside au jugement dernier. Il siège en souverain, immobile, sur son trône, et tout autour de cette image centrale et fixe qui focalise l'attention, se déploie une sorte de récit en sculpture. Les yeux vont d'une scène à l'autre et déchiffrent le scénario du jugement. De la main droite, le Christ désigne le ciel, aux brebis bénies de son père. De sa main gauche, il désigne au bouc, au maudit, les lieux infernaux où s'agitent déjà des diables. C'est le récit des humains soumis au jugement. Le récit de l'humanité au moment décisif. Le récit de chacun des pèlerins qui passent ce porche en se demandant « De quel côté serai-je ?» Cette représentation monumentale du jugement dernier orne la plupart des cathédrales, sur leur portail central ou un portail latéral, et beaucoup d'églises. Elle a marqué le Moyen-Âge dans sa globalité, installant et approfondissant au fil des siècles cette idée d'une justice de Dieu bornée d'un côté par la miséricorde et de l'autre par la sévérité, mais toujours centrée sur la rétribution et donc sur la peur. Cette peur a suscité ou infléchi une bonne part de l'expression religieuse chrétienne d'Occident, avec son cortège d'œuvres pieuses et de messes répétitives, de pèlerinages et de mortifications jamais suffisantes, et cette inquiétude du nécessaire perfectionnement, de la progression dans la hiérarchie de la sainteté. Car la grande question, devant ce juge divin, aux exigences inatteignables, mais à la compassion toujours possible, est donc, comment obtiendrai-je de Dieu qu'il me soit favorable. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? C'est ainsi que Martin Luther formule dans sa langue cette question dont il hérite en homme de la fin du Moyen-Âge et qu'il porte en lui-même comme une angoisse intime. C'est là le cœur même de toute démarche proprement religieuse, obtenir la faveur de Dieu. Et l'enjeu de ce drame se noue autour du verbe « obtenir », bien sûr. Comment obtenir ? La religion a pour but d'identifier les voies d'accès à Dieu, de les codifier, de les garantir. Elle établit et décline les conditions, sans doute exigeantes, mais au moins répertoriées et praticables, qui permettront cet accès. Les dispositions intérieures à cultiver, les doctrines auxquelles adhérer, les formules à réciter, les comportements à éviter et ceux auxquels s'adonner. La religion apporte ses secours, comme on dit, et ses lumières pour guider le fidèle. Obtenir la faveur de Dieu, c'est la raison d'être de tout système religieux. Au tournant du bas Moyen-Âge et de la Renaissance, c'est-à-dire à l'époque de Luther et de la première génération de la Réforme, ce mode de relation religieux avec Dieu connaît une sorte de paroxysme avec la pratique des indulgences. Les indulgences sont l'aboutissement, à la fois rationnel et aberrant, de cette logique fondée sur le donnant-donnant entre le fidèle et Dieu. Je te donne mes réparations, tu me donnes une réduction de peine. Plus largement, je te donne ma repentance, tu me donnes ton absolution. Je te donne mes sacrifices, tu me donnes ta paix. Je te donne mes bonnes œuvres, tu me donnes ton salut. Et tout cela avec un lien de cause à effet. Autrement dit, par mes pratiques, par ma piété, par ma morale, par ma fidélité à l'héritage des pères et des martyrs, par mes dispositions intérieures, j'entre en négociation avec Dieu. Les indulgences sont le produit le plus sophistiqué d'une ingénierie religieuse, diversifiable à l'infini, mais dont l'objectif est toujours le même, faire commerce avec Dieu. Gardons-nous de penser que ce type de relation serait réservé à une époque, la fin du Moyen-Âge, à une pratique, l'acquisition des indulgences, à une confession, l'Église catholique romaine. Sous des visages divers et parfois très subtils, elle existe dans toutes les religions et toutes les confessions chrétiennes. Il s'agit de rendre Dieu prévisible, au terme de procédures auxquelles il se soumet et qui garantissent le lien avec lui. Et donc d'assigner Dieu à une résidence à laquelle on puisse avoir accès, de le fixer dans un lieu où l'on soit sûr de le trouver. Tabernacle, temple, hostie, lettres de la Bible, doctrine, morale, expérience, phénomène. En s'attaquant au système des indulgences, Luther dénonce cette logique du donnant-donnant qui le sous-tend. Et dans l'œuvre des réformateurs, cette critique s'étend très vite aux autres piliers de ce qu'il faut bien appeler le système religieux de la chrétienté. Non, disent-ils, il n'y a pas de hiérarchie au sein de la communauté chrétienne, avec le peuple tout en bas, le clergé au-dessus et au-dessus encore celles et ceux qui prononcent les vœux monastiques. Non, les œuvres pieuses n'ont aucune valeur quant au salut. Non, Dieu n'est pas un mélange de comptables et de juges qu'il faudrait amadouer. Ce qu'opère la réforme, au fond, c'est une dévalorisation essentielle de la démarche religieuse en elle-même, et donc une dénonciation de toutes les servitudes qui en étaient issues. C'est pourquoi, par exemple, c'est devenu une banalité de dire que la réforme a joué un rôle capital dans l'avènement de la liberté de conscience, jusque dans ses conséquences au plan des libertés sociales et politiques. Mais on méconnaît trop souvent que c'est d'abord sur le plan de la liberté reconnue à Dieu que la réforme jaillissante opère un renversement. Ce renversement peut être résumé dans une formulation très simple, mais très radicale. Dieu est souverainement libre. En aucune manière, l'agir de Dieu n'est conditionné, ni de près ni de loin, par l'agir humain. L'affirmation de la souveraine liberté de Dieu réduit à néant tout espoir d'obtenir quelque chose de lui. Obtenir au sens d'attendre un effet en retour d'une initiative de notre part, d'escompter une contrepartie. C'est bien pourquoi, par exemple, Luther, à la suite de Paul, parle volontiers de Dieu qui se révèle comme d'un Dieu qui se cache, dont la force se révèle dans la faiblesse, la gloire dans la croix, la sagesse dans la folie. un Dieu qui toujours nous échappe. Ou bien encore, c'est pourquoi Calvin insiste sur le fait que rien ne peut jamais enclore Dieu. C'est ce que l'on résume sous le mot « grâce ». Si le Dieu vivant est bien un Dieu de grâce, et c'est là une affirmation constante de l'ensemble de la Réforme, alors il n'est lié par aucune causalité. Ce que nous faisons et ce que Dieu fait ne relèvent en aucun cas ni de la compétition, ni de la collaboration, ni du lien de cause à effet. La relation avec Dieu est gracieuse, gratuite, radicalement hors commerce. Cette relation avec Dieu se nomme la foi. Et qu'elle soit absolument gratuite, c'est-à-dire qu'elle ne donne droit à rien, qu'elle ne permette pas d'exiger quoi que ce soit de lui, n'empêche nullement qu'elle nous ouvre à un abandon dans lequel nous attendons tout de Dieu. Ne rien chercher à obtenir de lui, mais tout attendre de Dieu. La foi est une relation pour rien et qui transforme tout. Jésus n'a cessé de manifester cette souveraine liberté de Dieu, qui n'est assignée à aucune résidence et liée par aucune contrainte religieuse. Il l'a fait en guérissant le jour du sabbat, en pardonnant les péchés, en s'attachant aux enfants, en se plaçant au-dessus de Moïse, en fréquentant les impurs, en s'invitant chez les réprouvés. Il l'a fait encore, avec quel éclat scandaleux et même blasphématoire, le jour où il a chassé les marchands du temple de Jérusalem, rendant précisément impossible cette logique du donnant-donnant avec son Père. Mais Jésus a exprimé cette liberté de manière peut-être plus frappante et plus scandaleuse encore par l'une de ses paraboles les plus célèbres. La liberté de Dieu s'y manifeste sous les traits d'une étonnante mobilité. Tous les collecteurs des taxes et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes maugréaient, il accueille des pêcheurs et il mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 moutons et qu'il en perde un, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celui qui est perdu, jusqu'à ce qu'il le retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvé, il le met sur ses épaules tout joyeux, et de retour chez lui, il appelle ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour 99 justes qui n'ont pas besoin d'un changement radical. C'est là la parabole du mouton perdu et retrouvé, dans la version qu'en donne l'évangéliste Luc. Elle est sensiblement différente de la version plus connue qu'en donne l'évangéliste Matthieu. Elle est plus radicale aussi. Une radicalité d'autant plus remarquable que Luc a composé, avec le plus grand soin, un chapitre entier avec trois paraboles sur ce thème du perdu et retrouvé. Chaque mot est donc choisi, chaque formule pèse. Le contexte narratif de ces trois paraboles, et notamment de la première d'entre elles, celle que nous avons entendue, est capitale. Jésus est en présence de collecteurs d'impôts et de pécheurs, des personnes qualifiées par leur péché. Il y a également là des pharisiens et des scribes sincèrement choqués. À mi-voix, ils reprochent à Jésus de se tenir en compagnie de cet auditoire méprisable et même de manger avec lui. À l'époque et dans ce cadre, cette question de nourriture et de pureté est très importante. Car peut-on entrer en contact avec des impurs quand on veut être fidèle au Dieu saint? Ces collecteurs d'impôts et ces pécheurs sont des gens impurs. La loi religieuse en interdit la fréquentation, non pas par ostracisme a priori, mais pour protéger ceux qui veulent être fidèles au Dieu vivant. Elle cherche à les préserver de tout contact impur, qui du même coup rendrait le contact avec Dieu impossible. Or c'est justement là un souci prioritaire des pharisiens et des scribes. Les scribes ont une autorité considérable. Ils sont les interprètes de la loi religieuse. Ils jugent des cas difficiles. Ils en contrôlent la jurisprudence. Les pharisiens sont les applicateurs les plus zélés de la loi, non pas par étroitesse d'esprit, mais justement pour qu'elle soit toujours vivante et pertinente dans toutes les circonstances de la vie. Et c'est pour eux, nous raconte l'évangéliste Luc. C'est pour ces autorités religieuses-là, qui cherchent à baliser toujours plus finement les conditions du maintien du contact avec Dieu, que Jésus raconte cette parabole du mouton, en commençant par ces mots « Lequel d'entre vous, s'il a 100 moutons et qu'il en perd un, ne laisse les 99 autres dans le désert ?» Lequel d'entre vous ? Pour les pharisiens et les scribes, c'est une gifle. Le métier de berger était méprisable, tellement méprisable qu'il était interdit par la loi religieuse à ceux qui voulaient rester purs. Un traité rabbinique de l'époque donne incidemment une liste des métiers les plus méprisables. Par ordre décroissant, on trouve joueur de dés, usurier, organisateur de concours de pigeons, marchand de produits de l'année de jachère, berger, collecteur d'impôts. Être berger était plus méprisable qu'être l'un de ces collecteurs d'impôts avec lesquels Jésus mange. Et c'est à des pharisiens et des scribes que Jésus dit « Lequel d'entre vous ?» Un autre texte rabbinique dit qu'il n'y avait pas d'occupation plus méprisable que celle de berger. Celui qui l'exerçait ne pouvait par exemple ni porter témoignage, ni juger. Et c'est à des juges, selon la loi religieuse, que Jésus dit « Lequel d'entre vous ?» C'est plus que de l'ironie, c'est de l'injure. Pourtant, nous ne sommes pas encore au bout des extravagances de Jésus. Car il met en scène un berger qui abandonne 99% de son troupeau. 99%, c'est pas sérieux. Et où les laisse-t-il, ces 99%? Il ne les place pas dans un enclos où ils seraient à l'abri pendant ses recherches. Il ne les conduit pas même dans un pâturage tranquille. Il les laisse dans le désert, le lieu de la solitude, de la tentation, des démons, des brigands. Et comment les laisse-t-il? Il les y abandonne. Il les laisse tomber. Il les laisse croupir. Le berger de la parabole de Jésus est un berger qui, pour aller chercher l'unique, déserte son troupeau. Et les extravagances de la parabole se poursuivent. Car une fois que le berger a retrouvé son mouton perdu, il ne se réjouit pas en poussant simplement un gros soupir de soulagement. Non, il organise une grande fête avec tous ses voisins, avec tous ses amis. Une telle fête, quand on a sauvé sa propre vie, d'accord. Une telle fête, quand on a sauvé 99% de son troupeau, je veux bien. Mais pour un seul de ses moutons, si je peux me permettre, ça coûtera beaucoup plus cher que le mouton qui a été retrouvé. Enfin, l'extravagance qui clôt la parabole fait écho à celle qui l'ouvrait. Car au début, Jésus faisait une hypothèse injurieuse pour son auditoire religieux, lequel d'entre vous, et en terminant, il fait une hypothèse injurieuse pour Dieu. Jésus dit qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur repentant que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Mais c'est une proportion proprement délirante. Le juste, c'est celui qui vit en tout selon la volonté de Dieu. À tel point que le psaume 143, par exemple, un psaume que ses auditeurs spécialistes de la loi connaissent parfaitement bien, un psaume que Paul cite plusieurs fois dans ses lettres, ce psaume supplie Dieu en disant « N'entre pas en jugement avec moi, ton serviteur, car aucun vivant ne peut être juste devant toi. » Aucun vivant. C'est même pas 1%, c'est 0%. Et Jésus se place dans la perspective où il y aurait un pécheur pour 99 justes. D'un bout à l'autre de cette parabole, et jusque dans ses détails, comme d'ailleurs dans les paraboles qui la suivent, Jésus évoque un Dieu extravagant, c'est-à-dire un Dieu imprévisible. Un Dieu qui fait autre chose, et même le contraire de ce qu'on attendrait. Un Dieu dont les choix sont déraisonnables. Devant ces pharisiens et ces scribes, si attentifs aux conditions d'accès à Dieu et qui désapprouvent les actes de Jésus, Jésus parle d'un Dieu étranger à toute leur représentation religieuse. Ce Dieu-là, que Jésus met en scène dans sa parabole, c'est le Dieu mobile. Son unique souci, c'est ce mouton perdu, perdu à en être détruit, perdu à en mourir. Et c'est pour lui qu'il devient mobile. Il va et il vient, il marche et il cherche, il arpente et il fouille jusqu'à ce qu'il le trouve. Dans sa version de la parabole, l'évangéliste Matthieu parle d'un homme beaucoup plus raisonnable à tous égards, qui cherche son mouton et, s'il le trouve, qui se réjouit. C'est une joie conditionnelle, ça peut ne pas arriver. Mais selon Luc, c'est jusqu'à ce qu'il le trouve. Dieu, tel que la parabole le suggère, c'est un Dieu qui quitte tout pour marcher et qui n'aura de cesse de marcher et de chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé. C'est un Dieu mobile, mis en route par ce désir de retrouver son unique mouton perdu. C'est un Dieu mobile, et ce qui le meut, c'est la passion de retrouver et de célébrer ses retrouvailles dans la joie partagée. À trois reprises, la joie est mentionnée dans les quelques lignes de cette parabole. Le Dieu dont parle Jésus est un Dieu mobile, dont le mobile est la joie, la joie, la joie de la rencontre. Tout au long de ces conférences de carême, nous avons évoqué nos mobilités contemporaines. Elles sont géographiques, temporelles, culturelles, existentielles même. La mobilité n'est pas une nouveauté. Elle est même probablement consubstantielle à l'être humain. Mais la mobilité est devenue un maître mot. Elle marque de manière toujours plus forte des aspects toujours plus nombreux de nos existences intimes et collectives. Longtemps, la mobilité fut un état temporaire, une phase transitoire entre deux situations de stabilité, professionnelle, sociale ou internationale, par exemple. C'est la mobilité comme moyen, si l'on peut dire. Aujourd'hui, la mobilité semble être devenue, en plus, une injonction. Il est normal, positif, et même nécessaire de rester mobile. La mobilité est censée être notre état de plus en plus permanent, dont on admet qu'il puisse faire place à des périodes de stabilité, mais plutôt brièvement et de loin en loin. C'est la mobilité comme fin, pour elle-même. Pourquoi ? Pourquoi sommes-nous de plus en plus mobiles, même si c'est sans but ? Que cherchons-nous dans cette mobilité dans laquelle nous baignons, que nous subissons et renforçons à la fois ? Quelle est notre quête dans cette mobilité qui fait nos délices ? Et nos détresses. Je crois que c'est de nous-mêmes que nous sommes en quête. Car si nous sommes toujours plus mobiles, c'est que la question de notre place ne reçoit plus de réponse évidente et satisfaisante. Notre place sous le ciel et sur la terre, notre place dans l'histoire et la succession des générations, notre place à nos propres yeux et aux yeux des autres. Nous pouvons voir cette place comme le fruit d'un hasard, et c'est alors une destinée qui nous semble frappée du sceau de l'absurde dont nous ne voulons plus. Nous pouvons à l'inverse considérer que notre place doit faire l'objet d'un choix, et choisir qui l'on est, être l'auteur de sa propre vie, est un défi grisant et épuisant. Nous bougeons parce que nous nous fuyons et parce que nous nous cherchons. Le Dieu des Écritures bibliques, lui, n'est pas le Dieu des immobilités. Il n'est pas le Dieu des places assignées et immuables. Il est même tout le contraire, parcourant l'histoire et traversant les cultures, abaissant les grands et élevant les petits, délaissant les religieux et cherchant les païens, Dieu singulier qui s'adresse à chacun et Dieu universel qui nous accueille tous. Il est le Dieu qui refuse de se laisser capturer par les prétentions religieuses. Il est le Dieu qui se met sans cesse en chemin, sans cesse en quête. Il est le Dieu mobile, dont la mobilité n'est pas utilitaire, dictée par un but qui, une fois atteint, le laisserait en repos. Il est le Dieu mobile, mu par le désir de la rencontre et par la plénitude de joie partagée que fait naître cette rencontre. C'est là le mobile de sa mobilité. Ainsi, devant ce Dieu vivant, nous nous découvrons comme des êtres de rencontre. Des êtres non pas de fuite éperdue ni de quête épuisante, mais des êtres que Dieu cherche jusqu'à ce qu'il nous trouve. Et quand il nous a trouvés, nous sommes chez nous, où que nous soyons, car nous sommes avec lui. Rencontrés par Dieu, nous sommes des êtres appelés à rencontrer à notre tour, dans cette promesse de fraternité que Dieu sème à tout vent. inlassablement. Après quoi courons-nous? Pourquoi sommes-nous vivants? Pourquoi vivons-nous? Sauf dans de très rares et exceptionnelles circonstances, cette question de toujours vivre pourquoi ne reçoit pas de réponse qui nous satisfasse. Peut-être parce que formulée ainsi, elle n'est pas placée de manière très juste. À la lumière du Dieu vivant, tel que Jésus-Christ nous le fait connaître, tel que les Écritures bibliques nous en parlent, à la lumière du Dieu vivant qui se mobilise pour nous rencontrer, la question « vivre pourquoi ?» devrait sans doute devenir « vivre pour qui ?» Lorsque je laisse de côté, ne serait-ce qu'un moment, la question « pourquoi est-ce que je vis ?» et que je me laisse saisir par la question « pour qui est-ce que je vis ?» c'est comme si une lumière venait rendre méconnaissable un paysage pourtant bien connu. Comme si l'air que je respirais était d'un coup renouvelé. Je passe du concept à la relation, de l'à quoi bon à la promesse, de l'inquiétude à la gratitude, et du zapping à la rencontre, semence de joie partagée.
Ainsi s'achève cette sixième et dernière conférence du carême protestant proposée par le pasteur Laurent Schlumberger de l'Église protestante unie de France. Retrouvez cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org, mais sachez que vous pouvez vous procurer l'ensemble de ces conférences, soit dans un coffret de 3 CD, soit par écrit dans un livret publié aux éditions Olivetan. Renseignez-vous sur le site du carême protestant, carême-protestant.org, ou écrivez au carême protestant au 27 rue de l'Annonciation, 75 016 Paris. L'équipe de coordination, Brigitte Iselin, Antoine Sédoux et le pasteur Nathalie Chaumet, et Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France, chargée de réalisation Anne-Laure Chanel et prise de son Claude Niort. Dans un instant, restez sur France Culture pour le carême catholique en direct de Notre-Dame de Paris.